Dudes, you guys are gonna go back in time.
It must be some kind of
five,
hot tub time machine.
4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1.
Il est 20h, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans ce 10e numéro de Classics Time Machine. Merci à vous d'être là avec nous en direct des studios de Radio Saint-Aff. Comme chaque quatrième mercredi du mois, le Dr M est derrière son micro jusqu'à 21h, flanqué de son fidèle technicien Clément en régie. Vous êtes parti pour passer une heure de voyage radio-temporel à bord de la Classics Time Machine, l'invention du Dr M, qui vous permet de revivre les événements et la musique de la deuxième moitié du XXe siècle comme si vous y étiez. Et ce mois-ci, nous passerons en revue les mois d'octobre 1959 à 1998. Alors vous savez, je tiens compte des critiques et on m'a souvent fait la remarque que cette émission ne relate pas toujours les moments les plus reluisants de l'histoire, ni les plus joyeux, et qu'en plus, à la fin, ce sont souvent les méchants qui gagnent. Et c'est hélas bien vrai, mais que puis-je vous dire ? L'histoire n'est que le reflet des actes des humains, et il faut donc chercher aujourd'hui à accomplir les actes qui feront que l'histoire demain sera plus drôle et plus belle à raconter. Ah, c'est beau ce que je viens de dire, hein ? Eh bah tiens, je joins les actes à la parole, et à la demande générale, je vais débuter par cette émission par un sujet futile, léger et presque totalement inintéressant, mais néanmoins 100% français. Je parle de la naissance en octobre 1959 du plus célèbre blond moustachu de l'Hexagone et du monde, Astérix le Gaulois, qui fête ses 59 ans ce mois-ci. Créé par le dessinateur Albert Uderzo et le scénariste du petit Nicolas René Goscinny, Astérix est la bande dessinée européenne la plus vue, la plus vendue au monde, la plus traduite et la plus adaptée au cinéma. Avec 37 albums publiés dans 111 langues et 365 millions d'exemplaires vendus, Astérix est de fait plus connu que Tintin. La Belgique est peut-être le pays de la bande dessinée, mais comme dans le sport, c'est quand même la France qui repart avec le titre de champion du monde de la BD. Mais Astérix, c'est aussi le nom d'une franchise commerciale qui reste très rentable malgré son âge respectable, et ce malgré une flopée de films tout aussi mauvais les uns que les autres, à l'exception de l'excellentissime et drôlissime Astérix Mission Cléopâtre, réalisé en 2001 par le grand Alain Chabat. Il faut ajouter à cela encore 10 films d'animation portés à l'écran, dont certains sont devenus des classiques. Et si vous comptez tous les produits dérivés, les droits d'image, le parc Astérix et le merchandising, vous vous ferez une petite idée de ce que l'irréductible Gaulois rapporte chaque année aux heureux qui en détiennent les parts. Bref, malgré la mort précoce de René Goscinny en 1977 et l'abandon des droits intellectuels par son dessinateur Albert Uderzo en 2013, il est fort à parier qu'Astérix sera lui aussi victime du report de l'âge de la retraite à 67 ans ou plus. Bon, un peu de musique avant d'aborder les sujets plus conséquents. En 1959, il y avait ce duo de rock instrumental venu tout droit de New York City, Santo and Johnny, qui sortait à cette année-là ce titre Sleepwalk, qui allait devenir leur plus grand succès. Un morceau taillé sur mesure si vous devez aller coucher vos petits marmots, car Sleepwalk est une véritable petite berceuse qui sent bon le popcorn, le soda et le Hawaii Burger. Allez hop, vous avez 2 minutes 15 pour border les petits et revenir à temps pour le prochain saut temporel, vers l'année 1973. En attendant, on écoute Santo and Johnny Sleepwalk 1959 sur Classics Time Machine avec le Dr M.
Au troisième jour de la guerre au Proche-Orient, les combats font rage. Israël contre-attaque depuis l'aube et annonce avoir abattu 90 avions. Le Caire et Damas démentent les succès de ces contre-attaques. À Vienne, à la conférence entre les compagnies occidentales et les pays arabes producteurs de pétrole, ces derniers menaceront-ils d'arrêter leurs ventes par solidarité envers l'Égypte et la Syrie? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Selon Tel Aviv, Israël a repris l'initiative sur les deux fronts depuis l'aube, après avoir acheminé des renforts considérables partout. Contre-offensive de blindés israéliens dans le Sinaï, soutenue par l'aviation dans le but d'anéantir les forces égyptiennes qui avaient traversé le canal de Suez. Sur le front nord, 400 chars syriens auraient été détruits. Pour la première fois, Israël publie un bilan et indique avoir abattu 90 avions et hélicoptères arabes. Mais les Égyptiens annoncent de leur côté que leurs forces progressent dans le Sinaï et les Syriens démentent la destruction de leurs chars et en tout cas, l'aviation égyptienne paraît très active. Il y a eu plusieurs violents combats aériens.
Nous avions déjà abordé dans un précédent numéro de l'émission la victoire militaire israélienne sur l'Égypte, la Syrie et la Jordanie en 1967, lors de la guerre des Six Jours. Nous avions vu comment l'État hébreu avait imposé sa domination militaire sur la région en occupant la péninsule du Sinaï en Égypte, le plateau du Golan au sud de la Syrie et la quasi-totalité des territoires palestiniens. Devant l'immobilisme des Nations Unies pour rétablir le droit international, l'Égypte et la Syrie fomentèrent le 6 octobre 1973 une attaque conjointe des territoires occupés afin d'en reprendre le contrôle. Appuyés par une artillerie puissante et soutenus logistiquement par l'URSS, les forces arabes réussirent très vite à briser les lignes de défense israéliennes et à pénétrer profondément dans les zones occupées. Le Yom Kippour est une fête religieuse et jour férié en Israël. Les généraux arabes savaient que ce jour-là, le pays entier tournerait au ralenti. Pendant une semaine, Tsahal subit de lourdes pertes et un vent de panique commença à souffler sur Israël. Bénéficiant d'un effet surprise total, les troupes arabes mirent l'armée israélienne en déroute sur quasiment tous les fronts. Mais en envoyant des renforts massifs de réservistes et en exploitant les maladresses du commandement arabe, la situation se retourna petit à petit en faveur de l'État hébreu. En encerclant une grande partie des armées égyptiennes et syriennes, les Israéliens se retrouvèrent une semaine plus tard aux portes de Damas et du Caire. Un cessez-le-feu fut demandé et obtenu le 25 octobre 1973, après deux semaines de combats intenses. Mais Israël, une fois encore, fit preuve de ruse, profitant du cessez-le-feu pour repositionner ses troupes de façon avantageuse, puis se mit ensuite à la table des négociations. La colère des pays arabes face à cette manœuvre ne fut que mollement appuyée par les pays occidentaux et l'URSS. En conséquence, les pays arabes de l'OPEP firent voter une augmentation du prix du pétrole de plus de 70%, provoquant une dégringolade de l'économie occidentale très dépendante de ses ressources. Lors des négociations, Israël fut mise sous pression et dut restituer les territoires arabes occupés et rétablir les frontières de 1967, mais parvint à conserver, grâce au soutien des USA, le plateau du Golan en Syrie. Cette guerre causa néanmoins une grave crise au sommet de l'État israélien et la première ministre israélienne Golda Meir fut contrainte à la démission. Une grande partie de l'état-major fut limogée en raison de la débâcle du début de la guerre. En tout, la guerre de Yom Kippour fit plus de 3000 morts israéliens et plus de 9000 morts côté arabe et plusieurs dizaines de milliers de victimes civiles. A boy is born in hot damn Mississippi, surrounded by a world that ain't so pretty. His parents give him love and affection to keep him strong, moving in the right direction, living just enough for the city. His father works some days for 14 hours, and you can bet he barely makes a dollar. His mother goes scrub the floors for many, and you best believe she hardly gets a penny. Living just enough for the city. Yeah. En 1973, Stevie Wonder avec un titre socialement engagé comme on les aime, Living for the City, issu de l'album Inner Visions. Alors juste une petite correction, il s'agissait bien de 10 000 victimes militaires, enfin blessés militaires et non civils comme je me suis malheureusement fourvoyé. Vous écoutez Classics Time Machine sur Radio Saint-Aff à Millau, vous nous écoutez sur la fréquence 100.6 FM, merci d'être avec nous.
The United States answer to what Adlai Stevenson termed Soviet blackmail in Cuba was a quarantine of all offensive weapons being shipped from Russia to that island fortress. The U.S. threw up a steel fence, prepared to stop any vessel carrying materials of war.
Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island.
Another photo revealed a surface-to-air missile assembly depot, a base to supply the offensive sites.
Après avoir évoqué la révolution cubaine de 1959, puis la tentative ratée de débarquement dans la baie des Cochons pour renverser le régime de Fidel Castro, suite ce soir du feuilleton américano-cubain. Du 16 au 28 octobre 1962, le monde entier retint son souffle devant la menace imminente de guerre nucléaire entre les deux superpuissances, l'URSS, dirigée par Nikita Khrushchev, et les USA, du pimpant président John Fitzgerald Kennedy. Tout a commencé le 13 octobre 1962, lorsqu'un avion espion américain photographie le sol cubain. Sur certains clichés, les experts américains s'aperçoivent que les Cubains ont construit des pistes d'atterrissage, mais surtout des rampes de lancement de missiles balistiques. Quelques jours plus tard, les services de renseignement américains reçoivent une information sans équivoque. Une trentaine de navires et sous-marins russes contenant à leur bord plusieurs têtes nucléaires font route dans l'Atlantique vers Cuba. Pire encore, les Russes ont en fait déjà installé au moins 24 têtes nucléaires sur les rampes de lancement de l'île et menacent ainsi directement de frapper le sol américain. Le 28 octobre 1962, la flotte russe entre en contact visuel avec les navires de guerre américains, arrivés sur place pour leur empêcher le passage. Ayant reçu l'ordre de passer à tout prix, la flotte russe passe en force devant les navires américains qui se mettent en travers. Refaisant surface frontalement, un des sous-marins russes reçoit l'ordre de se tenir prêt et son commandant fait alors charger une torpille nucléaire dans le silo qu'il pointe vers la marine américaine. Les flottes hostiles se font alors face en pleine mer, immobiles. La crise est à son paroxysme et les messages alarmistes des équipages à leur état-major affluent. Mais finalement, les navires russes font soudainement demi-tour. Ils ont reçu l'ordre de se retirer. Les USA ont obtenu in extremis par la diplomatie le retrait des navires russes et le démantèlement des rampes de lancement de missiles soviétiques à Cuba. La machine médiatique fait de cette reculade une victoire cinglante des États-Unis sur l'Union soviétique. Les USA, une fois de plus, champions de la liberté, ont fait triompher la démocratie. Ça, c'est la version occidentale des événements car en réalité, les Russes sortent plutôt vainqueurs sur le plan stratégique de cette confrontation. Ils ont en effet obtenu en échange de leur retrait le démantèlement des missiles nucléaires américains installés en Turquie et en Italie qui menaçaient directement le sol soviétique. En cadeau, ils ont également obtenu le renoncement total des États-Unis à envahir Cuba. Mais cela, évidemment, la presse occidentale ne le mentionnera pas, propagande oblige. La crise des missiles de Cuba restera quand même le point le plus chaud de la guerre froide et forcera les deux superpuissances à établir la ligne du fameux téléphone rouge reliant la Maison Blanche au Kremlin directement pour éviter une nouvelle escalade vers la Troisième Guerre mondiale. Elle déclenchera aussi une nouvelle ère diplomatique entre les deux blocs, plus conciliante et moins militariste, que l'on appellera la détente.
Classics Time Machine, les Saint-Africains parlent au français.
Et on part en musique survolée cette année avec ce gros tube « Do You Love Me » du groupe américain The Contours, qui atteint le sommet des charts à l'été 1962, un titre qui fait partie des premiers très gros succès du label de musique mythique Motown de Detroit. The Contours, « Do You Love Me » sur Classics Time Machine.
You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back. To let you know, I can really shake 'em down.
Do you love me?
I can really move.
Do you love me?
I'm in the groove.
Do you love me?
Do you love me? Now that I can dance.
Watch me now.
Hey, work, work, oh.
30 000, 50 000, 100 000, les chiffres varient. Ils étaient des dizaines de milliers entre la Bastille et Montparnasse, mobilisés contre le racisme, venus de la France entière, en autocar à l'appel d'un collectif national et de 70 associations, partis et syndicats de gauche. Pour les marcheurs, tout a commencé vers 13h avec le repas. Enthousiasme et émotion, bien sûr, mais aussi un peu d'inquiétude, car ces enfants d'immigrés qui marchent depuis un mois et demi ont fait le pari de rassembler 100 000 personnes. Ils ont fait le pari de réveiller les Français, ces Français précisément qu'ils ont appris à mieux connaître à travers cette marche.
On était parti en tête avec l'idée que tous les Français sont plus ou moins tous racistes. Alors là, on n'a plus le droit de généraliser. On a eu à voir, même jusqu'à avoir un policier porter les cuissons Marche pour l'égalité. Alors.
Dans le cortège, ce sont aussi des images bon enfant. On n'a vraiment pas oublié le sens de la fête chez les jeunes immigrés. Mais le deuil était présent aussi. Les familles des jeunes maghrébins victimes du racisme ont manifesté dans la gravité. Les Français étaient nombreux à côté des immigrés pour témoigner leur solidarité.
En septembre 1983, peu après la publication des résultats officiels des élections municipales en France, un grand débat occupe l'espace médiatique. À Dreux, dans l'Eure-et-Loire, le Front National de Jean-Marie Le Pen a réalisé une percée sans précédent. Il a réuni 16,72% des voix et, en fusionnant avec les listes de la droite républicaine du RPR, il va co-diriger cette ville de taille moyenne et prendre des décisions politiques pour la première fois en France. Le RPR est sévèrement critiqué par la gauche et une partie de la jeunesse, indignée d'une alliance avec un parti ouvertement raciste et anti-républicain. Avec cette couverture médiatique, le FN peut compter sur une visibilité maximale et une publicité inespérée à un an des élections européennes. Pour quelques enfants d'immigrés à Marseille, qui craignent la montée de la xénophobie qu'ils subissent depuis toujours, c'est la goutte de trop. Ils s'organisent et décident de marcher sur Paris pour réveiller le pays et la classe politique sur le danger de la montée du Front National en France. Ils baptisent leur initiative « La Marche pour l'égalité », mais les médias, qui s'intéressent vite à ces 32 jeunes de quartier qui font à pied la route qui sépare Marseille de Paris, la fera connaître sous le nom de « Marche des beurs ». Passant de ville en ville, arborant des affiches et des panneaux, leur mouvement grossit au fur et à mesure et en étant rejoint par d'autres jeunes qui se joignent au rang, ils sont vite plusieurs milliers, voire dizaines de milliers sur les routes. En quelques semaines, ils occupent le devant de la scène médiatique et les Français découvrent alors une jeunesse qui jusqu'ici était restée invisible, celle des enfants des immigrés maghrébins de la première génération, nés en France et qui ne se sentent pourtant pas toujours acceptés comme tels. C'est la toute première initiative de cette sorte et le mot « beurre » devient vite le mot de l'année. Soutenu par les syndicats, des associations diverses et des partis de gauche, la marche atteint Paris finalement avec quasiment 100 000 manifestants demandant à parler avec le président de la République, François Mitterrand, ce que ce dernier fera. Beaucoup alors ont le sentiment que le message va faire évoluer les relations entre jeunes beurres et Français dits « de souche » et les promesses électorales fusent dans un vent d'optimisme. Néanmoins, si la marche des beurs aura au moins eu l'effet de placer les jeunes issus de l'immigration sur l'échiquier médiatique, elle n'aura de fait aucun effet réel sur la vie politique en France et le Front National ne cessera au cours des 30 prochaines années de prendre l'ascenseur médiatique et électoral, tandis que les jeunes des quartiers, eux, ne verront rien changer à leur situation ni à leur place dans la société française.
Tu disais tout bas. que je trouvais dans tes yeux. Lorsque je rêvais, tu es tout près de moi. C'est la seule façon de rester avec toi.
Classic Time Machine, pour se remémorer cette année 1983, j'ai choisi ce titre d'Étienne Dao, Le Grand Sommeil, qui figurait sur son album La Notée, La Notée. Étienne Dao, un chanteur aux capacités vocales modestes, mais qui a sorti au début des années 80 trois albums particulièrement intéressants, mêlant pop électronique, influence post-rock et chansons françaises, avec un petit charme léger et désuet qui ne me laisse pas de marbre.
Tommy Smith running pretty well so far. And in lane two, Bombook is strong on the outside. It's Edwin Roberts. It's John Carlos right now. It's Carlos and Smith. And here comes Tommy Smith. Smith has done it with his hands in the air.
I'm supposed to stand up there and look at a flag, put my hand over my heart, saying how proud I am because the flag has represented me. I don't think so, because it did not. So when the national anthem started playing, I was not looking at the ground. I was praying the Lord's Prayer. My head bowed, my fist went up in the air. I wore black gloves to represent social power or black power. I wore socks, not shoes, to represent poverty. I wore a black scarf around my neck to symbolize the lynching, the hangings that black folks went through while building this country.
The Olympic Games are 1 week old today, and yesterday, the sixth day, was the most dramatic so far. It started with the news that the black power disciples, Tommy Smith and John Carlos, the Olympic 200 meters gold and bronze medalists, had been suspended by the United States Olympic Committee and given 48 hours to leave Mexico.
I had said that if there were any demonstrations at the Olympic Games by anyone, the participants would be sent home.
Je vais à présent parler avec vous d'une photo mondialement célèbre. Elle a été prise le 16 octobre 1968 à Mexico City lors d'une cérémonie de remise des médailles olympiques d'athlétisme. Ce jour-là, Tommy Smith, un athlète noir américain couvert de titres et détenteur de plusieurs records, remporta la médaille d'or sur l'épreuve du 200 mètres en s'imposant devant l'athlète australien Peter Norman et son compatriote, lui aussi noir américain, John Carlos, qui remporta la médaille de bronze. Debout sur le podium, tête baissée lorsque retentit l'hymne national américain, ils brandissent un poing ganté de cuir noir vers le ciel. Ils le font en protestation du racisme que subissent des millions d'Afro-Américains aux États-Unis. Tommy Smith expliquera plus tard à la presse « Me tenir sur le podium, chantant l'hymne national américain, comme si je devais être fier d'être américain, tandis que dans mon pays, les gens de ma couleur subissent l'injustice permanente, je ne crois pas, non. » Lorsque Carlos et Smith remportent la course, ils vont immédiatement annoncer à l'athlète australien Peter Norman leur intention de protester de la sorte. Celui-ci leur aurait serré la main en leur disant « Je suis avec vous ». Il leur prête alors sa paire de gants noirs qu'ils mettront à leur poing car ils n'en avaient pas eux-mêmes. Le gant noir et le poing tendu est depuis des années le symbole de la lutte des Afro-Américains. C'est pour cette raison d'ailleurs que l'on voit sur la photo Smith lever le poing droit et Carlos son poing gauche. Ce n'était donc pas une erreur comme le soutenaient certains. Mais la presse américaine est outrée. Sur la deuxième marche du podium, l'Australien Peter Norman, arborant sa médaille d'argent, ne lève pas le poing au ciel, car il est blanc et ce geste hautement lié à la population afro-américaine serait déplacé, mais il a accroché sur son maillot un insigne bien visible pour l'égalité des droits sportifs des athlètes noirs, celle du projet olympique pour les droits de l'homme, juste au-dessus de l'emblème de l'équipe nationale australienne. Scandale en Australie. Le geste et l'attitude de ces trois hommes défraient la chronique et la photo de cette cérémonie fait le tour du monde. Elle va pourtant pulvériser les carrières sportives et sociales de ces trois athlètes. Accusés de politiser l'événement, ils sont immédiatement expulsés du village olympique et privés de Jeux olympiques à vie. Ils ne seront plus jamais admis dans aucune compétition officielle et radiés des listes de leurs licences sportives. Ils seront même menacés de mort. John Carlos et Tommy Smith enchaîneront des boulots sportifs divers sans grand prestige, ne réintégreront jamais l'équipe nationale et ne se verront réhabilités qu'en 2016 lorsqu'ils sont reçus à la Maison Blanche par le président Barack Obama. Lorsque Peter Norman décède à Sydney en Australie en 2006, Carlos et Smith feront le déplacement et porteront sur leurs épaules le cercueil de leurs camarades de lutte. Il ne sera réhabilité par le gouvernement australien qu'à titre posthume en 2012, le gouvernement présentant même ses excuses à la famille. La photo de leur acte de défiance a été placée en 2001 à la 16e place des photos les plus influentes du XXe siècle par le respecté journal américain Time Magazine. Aujourd'hui, dans le monde du sport américain et notamment dans le football américain, des joueurs ont commencé des actes de défiance similaires, guidés par l'exemple du joueur de la NFL Colin Kaepernick, qui, pour protester contre la remontée du racisme, a posé un genou à terre lors de l'hymne national. D'autres joueurs, ayant par solidarité aussi mis un genou à terre en signe de soutien, ont été publiquement insultés par le président Trump lors d'un meeting cette année, en demandant aux entraîneurs de leurs équipes respectives « Sortez-moi du terrain ces fils de pute qui déshonorent notre drapeau », je cite. 50 ans après Mexico, peu de choses semblent avoir changé aux États-Unis. Un morceau qui semble spécialement taillé sur mesure pour illustrer le précédent sujet, c'est Say It Loud, I'm Black and I'm Proud par le grand James Brown, sorti la même année que cette fameuse photo en 1968. Dans ce titre, James Brown exhorte les Afro-Américains à revendiquer fièrement leur couleur de peau. Dites-le haut et fort, je suis noir et j'en suis fier. Il y décrit les brimades et les frustrations quotidiennes des Noirs américains dans une société oppressante et racialisée et appelle à l'unité, à la cohésion de cette communauté pour parvenir à s'émanciper par ses propres moyens.
De cette soirée, ne restent que ces images d'hommes, main sur la tête, la peur dans les yeux. À l'appel du FLN, ils étaient venus manifester à Paris pour dénoncer le couvre-feu. Un couvre-feu qui venait d'être imposé à la population algérienne. Ce 17 octobre 61, les forces de l'ordre vont faire payer très cher à ces manifestants pacifiques la mort de leurs collègues policiers assassinés par le FLN dans les mois précédents.
Là, devant la préfecture de police, devant le palais de justice, des Algériens ont été jetés à la Seine, du haut de ce pont. Il est bien évident que les policiers qui ont commis ces crimes, ici, en plein cœur de Paris, l'ont fait avec le sentiment de l'impunité.
En ce moment-là, ils commencent à faire sur nous un carnage. Ils tapaient par tous les moyens ce qu'ils avaient sous les mains. On ne peut pas vous dire si c'est des barres de fer ou des matraques ou des coups de crosse.
Il a été dit que des collègues auraient été tirés, auraient été abattus par des Nord-Africains. C'était entièrement faux.
Cet ancien collaborateur de Maurice Papon est formel. Le FLN porterait la responsabilité des violences.
On ne pouvait pas tolérer qu'ils aillent manifester sous les fenêtres du général de Gaulle. Vous me l'accorderez quand même. C'était pas pensable. Vous pouvez pas Et qu'aurait pensé l'armée française en Algérie alors qu'on laissait tout faire ici, c'était pas possible.
Dans ce débat un peu macabre, une seule certitude. Le 17 octobre 61 restera l'une des pages les plus sombres de l'histoire de la 5ème République.
Les événements qualifiés du massacre du 17 octobre 1961 sont le fait de la répression meurtrière par la police française d'une manifestation d'Algériens organisée à Paris par la Fédération de France du FLN. Préparée en secret, la manifestation est un boycott du couvre-feu nouvellement appliqué aux seuls Nord-Africains. Alors que les attentats du Front de Libération Nationale frappent les forces de l'ordre depuis plusieurs mois, l'initiative, non déclarée aux autorités, est cependant pacifique. Le FLN, qui y voit un moyen d'affirmer sa représentativité, y appelle tous les Algériens, hommes, femmes et enfants. Les défilés nocturnes sur les grandes artères de la capitale donnent lieu à des affrontements au cours duquel des policiers font feu. La brutalité de la répression qui se poursuit au-delà de la nuit du 17 dans l'enceinte des centres d'internement fait plusieurs centaines de blessés et un nombre de morts qui reste discuté, le bilan officiel étant de 3 morts alors que les historiens avancent aujourd'hui une estimation plus réaliste de 200 à 300 morts. Le gouvernement français a tout fait pendant des années pour étouffer cette affaire et couvrir le préfet de Paris de l'époque, un certain Maurice Papon, qui s'était illustré durant l'occupation en organisant jusque dans les détails la déportation de centaines de juifs, dont de nombreux enfants, vers les camps de la mort nazie en Pologne depuis la région de Bordeaux. Un crime qui ne l'empêchera pas d'être pourtant nommé ministre du budget sous le mandat du président Valéry Giscard d'Estaing de 1978 à 1981 et pour lequel il ne sera jugé et condamné qu'en 1998. Le 17 octobre 1961 et ses suites ne sont longtemps perçues que comme l'un des nombreux épisodes liés à la guerre d'Algérie. À partir des années 1990, ils font l'objet d'un certain traitement médiatique, puis politique plus important à la suite des publications d'études historiques, de romans, d'un recueil photographique et surtout du retentissant procès de Maurice Papon, préfet de police en fonction en 1961, alors jugé pour ses actes pendant l'occupation. En 2012, à l'occasion du 51e anniversaire de la manifestation, le président de la République française, François Hollande, reconnaît avec lucidité, au nom de la République, que la sanglante répression, au cours de laquelle ont été tués des Algériens qui manifestaient pour le droit à l'indépendance, ce soir pluvieux d'octobre 1961, reste une véritable tache de honte sur l'histoire de France, une de plus entourant la sale guerre menée par la République française en Algérie de 1954 à 1962.
Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted. You'd leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? Wondering what in the crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for love.
En 1961, elle signait son plus grand succès, la chanteuse américaine Patsy Cline avec Crazy. Elle n'eut cependant pas le plaisir de profiter très longtemps de sa carrière, car comme toute une pléthore de chanteurs et chanteuses des années 60 et 70, elle périt le 5 mars 1963 dans le crash de son avion alors qu'elle était en tournée à l'âge de 30 ans.
But I want to say one thing to the American people. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false, and I need to go back to work for the American people. Thank you.
This is the CBS Evening News, with Dan Rather reporting from CBS News headquarters in New York.
Good evening. We're presenting a special one-hour edition. President Clinton stands impeached by the U.S. House of Representatives. He faces trial early next year and possible removal from office by the U.S. Senate. He also faces political pressure to resign. The president says flatly, no. In an atmosphere of rancor, the U.S. House approved 2 of 4 impeachment counts. Yes to 1 count of perjury and 1 of obstruction of justice.
Le 8 octobre 1998 à Washington, aux USA, la Chambre des représentants vote la mise en accusation du président américain Bill Clinton, qui entame une procédure éventuelle de destitution. Ce n'est pas une surprise, la majorité au Parlement étant républicaine et le président étant lui-même un démocrate. De plus, ce dernier est empêtré depuis des mois dans une affaire politico-sexuelle, l'affaire Monica Lewinsky, souvent rebaptisée Monica Gate par la presse anglo-saxonne. Le 17 janvier 1998, une partie de la population américaine conservatrice semblait découvrir, choquée, que même le président des États-Unis avait une vie sexuelle, et une vie sexuelle extra-conjugale par-dessus le marché. Le président Clinton niait avoir eu des relations sexuelles avec sa collaboratrice à la Maison-Blanche, Monica Lewinsky, de 27 ans sa cadette. Ayant juré sur serment n'avoir eu aucune intimité avec elle, sa position est rendue difficile à tenir lorsque la presse de caniveau dite « à scandale » fit ressurgir des détails scabreux de l'affaire au grand public, telle la fameuse tache blanche sur le revers du tailleur de Lewinsky aperçue par certains membres du personnel de la Maison-Blanche. Jugez vous-même du niveau du débat. S'ensuivit alors une campagne puritaine massive des réseaux républicains et conservateurs, prônant la décence chrétienne et pointant hypocritement les dégâts causés à la fonction présidentielle par une telle affaire honteuse. En réalité, les députés républicains n'utiliseront presque jamais cette rhétorique pour justifier leur croisade pour la destitution de Bill Clinton. C'est un travail qu'ils laisseront sciemment à leurs militants, tandis qu'eux se concentrent sur un aspect purement juridique de l'affaire. Comprenez-vous, loin d'eux l'idée d'attaquer Clinton sur sa vie privée, non. Ce qui les dérange, c'est qu'en niant sous serment avoir eu une relation extra-conjugale, il a techniquement commis une faute constitutionnelle, voyez-vous. Le Parlement vote donc la procédure dite « impeachment » qui vise à faire voter par les parlementaires du Sénat et de la Chambre la destitution du président. Une enquête parlementaire est menée où son conducteur, le sénateur conservateur Kenneth Starr, forcera devant des caméras retransmettant en direct les images d'un président Clinton rouge de honte et de colère à étaler les détails de sa vie privée devant des dizaines de millions d'Américains. Ce fut l'un des événements télévisés les plus regardés du XXe siècle aux USA. Pour les Républicains, l'occasion est inespérée, ils vont peut-être faire tomber un président très populaire et dont la politique économique est un véritable succès. Mais au final, tous ces efforts se révéleront vains. La majorité des Américains continuent de soutenir Bill Clinton et surtout son bilan politique. Lors du vote, les démocrates, pourtant en minorité, finirent par recueillir les soutiens d'une dizaine d'élus pourtant républicains, écœurés par les proportions que prit l'affaire, faisant pencher la balance des votes en faveur du président et en l'acquittant de toutes les charges retenues contre lui. Hasard du calendrier ou non, en 1998, au même moment, sortait un single du groupe électro-français Air qui allait devenir un succès mondial et dans le titre trouve, à mon avis auprès de Bill Clinton, tout son sens, Sexy Boy.
Sexy Boy. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est fait, la guillotine est hors la loi en France, la peine de mort est abolie. L'Assemblée nationale a voté en première lecture le projet de loi que lui avait présenté le ministre de la Justice, Robert Badinter. Ce vote historique a eu lieu à 18h30, regardez.
Personne ne demande plus à voter. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin sur l'article 1er, qui, je le rappelle, était ainsi libellé. La peine de mort est abolie. Nombre de votants, 487. Suffrages exprimés, 482. Majorité absolue, 242. Pour, 369. Contre, 116. L'Assemblée nationale a adopté.
C'était une promesse du candidat à l'élection présidentielle François Mitterrand, ce fut une de celles qu'il tint. Avant contraire de l'opinion publique, majoritairement favorable à la peine de mort, celui-ci avait d'emblée déclaré, s'il était élu, qu'il abolirait la peine capitale. En cette année 1981, selon une enquête, 63% des Français souhaitent toujours et encore son maintien. Il fallait donc, pour ficeler cette loi, arriver à faire basculer non pas l'opinion publique, mais ses représentants à l'Assemblée nationale et au Sénat. Fort d'une majorité bien assise, le président savait que sa proposition passerait sans encombre, mais l'enjeu médiatique était d'obtenir le plus de votes en faveur de l'abolition, de l'opposition de droite, afin de conforter a posteriori l'image d'un président rassembleur que se voulait être Mitterrand. Et oui, la fée communication de l'Élysée, qui s'était illustrée avec brio lors de la campagne des présidentielles, continuait toujours de veiller sur l'image du président dans un monde où la médiatisation de la vie politique était en plein essor. Lorsque la proposition de loi fut présentée au Parlement, il y eut tout de même de fortes oppositions à ce projet, en quasi-totalité émanant de députés de la droite et du centre, alors dans l'opposition. Mais le jeu de Mitterrand fut efficace. Il sut convaincre certaines personnalités de poids de droite à se rallier à cette cause. Et ce que réussit de cette façon l'Élysée et le gouvernement, c'est de révéler à l'opinion publique la division de la droite avec d'un côté ceux favorables au progrès et de l'autre la vieille garde conservatrice. Autrement dit, comment ringardiser auprès des électeurs humanistes en un clin d'œil toute une partie de la classe politique. En faisant voter la loi, la France mettait fin à une pratique plus que centenaire mais que la justice était de plus en plus réticente à mettre en œuvre. Le dernier condamné à mort exécuté le sera néanmoins en 1977. Tous les autres virent leur peine commuée en condamnation à perpétuité. Excusez-moi, si la France peut s'enorgueillir d'avoir fait ce jour-là un pas vers le camp humaniste, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui encore, la peine de mort reste une réalité dans 57 pays où elle est régulièrement appliquée. En 2017, 993 personnes ont été officiellement exécutées selon Amnesty International, exclusion faite de la Chine, l'Arabie Saoudite, l'Inde et le Pakistan qui ne dévoilent pas ces chiffres, mais dont on estime qu'ils dépassent à eux seuls 3 ou 4 000 exécutions par an. Les USA figurent à la 8e place mondiale officielle et sont de fait le dernier pays occidental où l'on exécute encore aujourd'hui une centaine de prisonniers chaque année. probablement l'un des morceaux fondateurs de ce qui allait devenir 20 ans plus tard la Tech House, mélange de house music et de techno. Le groupe post-punk rock et électro venu de Manchester au Royaume-Uni, New Order, composé en partie des anciens membres du groupe tout aussi culte Joy Division, qui sortit ce monument du genre New Wave, Blue Monday, en mars 1981 sur le label légendaire Factory. Vous écoutez Classics Time Machine avec le Dr. M aux commandes et vous êtes sur Radio Saint-Af.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Deutschen leben wieder in einem souveränen, freien und geeinten Land. 45 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg endete in der vergangenen Nacht die deutsche Teilung. Die DDR und die Bundesrepublik vereinigten sich zu einem Staat. Die Einheit wurde in Berlin und anderen Städten mit Bewegung.
À peine après la réunification, Helmut Kohl, le nouveau chancelier de l'Allemagne unie, a tenu à rassurer ses partenaires européens. Nous allons nous engager pour l'unité européenne avec la même détermination que pour notre unification, a déclaré Helmut Kohl dans un message envoyé à tous les gouvernements du monde.
La nouvelle République fédérale d'Allemagne retrouve la presque totalité de ses frontières d'avant-guerre, mais le spectre du passé nazi et militariste interdit tout rêve de puissance. Après plus de 40 ans de séparation entre le communisme à l'est et l'expérience démocratique à l'ouest, les Allemands ne se connaissent plus très bien. Tout occupés à se retrouver, ils veulent conjurer le passé et s'intégrer dans l'Europe.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, après la capitulation de l'Allemagne, le pays fut découpé en plusieurs zones d'occupation. Et outre les pertes territoriales considérables au profit de la Pologne et de l'URSS, ce qui restait de l'Allemagne fut redécoupé en quatre secteurs occupés à l'ouest par les Américains, les Britanniques et les Français, et à l'est par les Russes. Ces zones évoluèrent progressivement en État allemand indépendant en 1949 en raison des tensions grandissantes causées par la guerre froide. Cette année, à l'ouest fut créée la Bundesrepublik Deutschland ou BRD, la RFA en français, sous influence occidentale, et à l'est, sous l'impulsion de l'URSS, fut créée la Deutsche Demokratische Republik ou DDR, RDA en français, fondée sur le modèle communiste des pays sous influence soviétique. Bien entendu, chaque république se voulait être la véritable Allemagne, historiquement légitime. Au fur et à mesure que les années passèrent, la frontière inter-allemande, partant de la mer de la Baltique jusqu'à la frontière tchécoslovaque, s'étirait sur 1400 km et fut militarisée exactement sur le même principe que le mur de Berlin dont nous avons déjà parlé. Les deux Allemagnes étaient de fait séparées par le rideau de fer et une frontière fortifiée était quasiment infranchissable. Pendant 40 ans tout juste, les républiques se firent face jusqu'aux événements de novembre 1989 où, avec la chute du mur de Berlin et le désir de réunification des Allemands, ces deux républiques cessèrent d'exister et fusionnèrent le 3 octobre 1990. Néanmoins, même si la chute du mur fut célébrée partout en Europe et fut le point de départ d'une décennie optimiste en Occident, il y eut quelques réticences, voire des craintes à la réunification de la nation allemande. En unissant les deux Allemagnes, l'Union européenne vit un pays passer à 80 millions d'habitants et sa superficie presque doublée en un clin d'œil. Mais surtout, l'Allemagne voit son poids économique au sein de l'Union européenne considérablement augmenter. Il y a aussi une certaine crainte auprès de certains de voir la puissance stratégique allemande restaurée, réveillant le spectre d'une domination allemande rétablie. Les tractations et négociations de la refondation de l'État allemand suivent néanmoins leur cours et aboutissent finalement donc, en ce 3 octobre 1990, à la réunification du pays, célébrée en grande pompe. Summum du symbolisme, l'équipe de football allemande réunifiée gagne la même année en Italie la Coupe du Monde et fait souffler un vent d'unité et d'optimisme sur le pays. You can't touch this. You can't touch this. Touch this. Can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I to rhyme and to hype me? It feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such. And this is beat up. You can't touch. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look at my eyes, man. You can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Touch this. Fresh new kicks and bands. You got it like that. Now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a fly girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let the noise go on like that.
touch this. Yo, sound the bell, school is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know, you're talking about the hammer, you're talking about a show that's hot and tight. Singles are sweating so fast, I'm a whiteboard tape. To learn what it's gonna take in the 90s to burn the charts. Legit, either work hard or you might as well quit. That's word, because you know, you can't touch this. Can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is said if you can't do the list, then you probably are dead. So wave your hands in the air. Bust a few moves. Run your fingers through your hair. This is it. For a winner. Dance to this and you're gonna get touch this. Look, man, you can't touch this. You better get a hype, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Stop, have a time.
Et si en 1990 vous aviez entre 9 et 14 ans et qu'à l'époque, dans la cour de l'école ou du collège, vous ne dansiez pas le fameux Hammer Dance ou encore le Running Man, vous n'étiez décidément pas branché et il y a fort à parier que vous n'étiez pas cool et que vous n'aviez pas d'amis, et c'est certainement toujours encore le cas. Car avec ce tube planétaire, MC Hammer en 1990 réalisait son plus gros carton avec ce titre You Can Touch This, que les jeunes de 2007 auraient traduit par Tu peux pas test, et tous les autres par N'essaye même pas. Mais pour ma part, You Can Touch This, c'est la phrase que je dis le plus fréquemment à mon fils quand je fais les courses avec lui au supermarché.
Are you a doctor?
I'm a doctor.
I'm a doctor.
I'm a doctor.
I'm a doctor.
You can tell me I'm a doctor.
Un petit reste de musique, pourquoi pas. Et voilà, fin de cette émission du mois d'octobre. Je vous reconduis sans attendre vers l'année 2018 et je vous remercie d'avoir été avec nous pour ce voyage radio-temporel mensuel. Et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous le mois prochain, mercredi. D'ailleurs, ce sera le combien? Le 22 ou... Bah, on verra ça. Le quatrième mercredi du mois prochain, à 20h, pour un nouveau numéro de Classics Time Machine. Mais attention, même concept d'émission, mais nouvelle formule, car nous avons, au cours de ces derniers mois, fait le tour du calendrier mensuel et nous continuerons notre voyage dans le temps sur des bases d'un autre format. J'espère que vous serez donc nombreux à l'écouter et à l'apprécier. En attendant, vous pouvez toujours réécouter cette émission qui sera rediffusée vendredi à 16h et dimanche à 17h. Et sur notre site web www.radiosaintafrique.com, vous pouvez retrouver la playlist complète et le podcast de l'émission. Merci encore à Clément, notre technicien en régie, et au Dr M, ça c'est moi, pour la réalisation, le montage et la rédaction de ce 10e numéro de Classics Time Machine. Comme d'habitude, je vous dis à dans un mois, et d'ici là, restez classe, chers auditeurs.
Who is that? I'm the doctor.
No, you may be a doctor, but I am the doctor. The original, you might say.
I'll be back.